VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous. Bienvenue à cette édition du mercredi 6 avril 2016. Au sommaire ce soir.
Au Bénin, l'homme d'affaires Patrice Talon prend les rênes du pouvoir, promettant des réformes politiques et institutionnelles pendant un seul mandat de 5 ans.
Nous avons vécu 10 ans de calvaire. Nous voulons en finir avec ça.
Une chose, c'est de faire un beau discours. Une autre chose, c'est de voir cela se traduire dans la réalité.
Nous irons à Cotonou pour des réactions.
En République du Congo, le candidat malheureux à la présidentielle, Parfait Kolela, dément avoir appelé ses partisans à accepter les résultats officiels.
Je respecte leur verdict parce que je suis démocrate, mais je le conteste en même temps. J'invite cependant le président Denis Sassou Nguesso, proclamé vainqueur, à avoir le triomphe modeste.
À quand la stabilisation du pouvoir légitime en Libye, après l'allégeance faite hier par les dirigeants non reconnus de Tripoli? Coup de théâtre ce mercredi, ces derniers menacent de poursuivre tous ceux qui collaborent avec le nouveau Premier ministre Fayez Al-Sarraj.
Dans la rubrique magazine, premier rapport global de l'OMS sur le diabète, la maladie atteignait 422 millions de personnes en 2014, une augmentation de 300% en 35 ans.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord le journal.
Au Bénin, le nouveau président Patrice Talon a prêté serment aujourd'hui. La cérémonie d'investiture s'est tenue dans un stade de Porto Novo, la capitale. Élu le 20 mars, Patrice Talon a présenté les grandes lignes de son programme. On fait le point avec notre correspondante au Bénin, Ginette Fleur Adandé.
C'est dans la sobriété, la liesse populaire que Patrice Athanase Guillaume Talon a prêté serment pour sa vie et défendre les intérêts de la nation béninoise. À Porto Novo, où a eu lieu la cérémonie d'investiture du nouveau président de la République, coup de canon, remise du drapeau national, revue des troupes, la cérémonie n'a duré que 90 minutes pour répondre aux vœux du nouveau président de la République. Dans son discours d'investiture, Patrice Talon jettera les grandes lignes de son projet de gouvernance qui se veut fédérateur et prenant en compte toutes les composantes de la nation béninoise. Patrice Talon porte ainsi donc les espoirs de tout un peuple qui croit en lui pour que la révolution populaire dans les urnes en mars dernier ne se transforme en une insurrection populaire dans la rue. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Africa.
Trouble à Brazzaville, le bilan des violences de lundi a augmenté. Selon le gouvernement, 17 personnes ont trouvé la mort. Il s'agirait de 3 policiers, 12 assaillants et 2 civils. Les autorités affirment détenir des preuves accablantes démontrant que le pasteur Ntoumi, ancien chef ninja, est le principal auteur de l'attaque qui a secoué la capitale congolaise.
Par ailleurs, un des candidats malheureux à la présidentielle, Guy Brice Parfait Kolela, dément avoir appelé ses partisans à reconnaître la victoire de Denis Sassou Nguesso.
Je respecte leur verdict parce que je suis démocrate, mais je le conteste en même temps. J'invite cependant le président Denis Sassou Nguesso, proclamé vainqueur par cette cour constitutionnelle, à avoir le triomphe modeste, car cette élection a été émaillée d'irrégularités de tout genre. Je sais, et eux-mêmes ils savent qu'il y avait un deuxième tour de l'élection présidentielle et que j'étais qualifié pour aller à ce deuxième tour. Viens les résultats avec moi.
Et Guy Brice Parfait Kolela, nous reviendrons sur le Congo en magazine.
Les autorités burundaises ont rapatrié mardi soir au Rwanda le corps de Jacques Biosagara. Cet ancien ministre et ancien ambassadeur rwandais à Bruxelles et Paris est mort dans une prison burundaise il y a une semaine. Soupçonné d'espionnage pour le compte de Kigali, il était détenu à Bujumbura. La famille et le gouvernement rwandais demandent une autopsie pour connaître les raisons de sa mort. De Bujumbura, la correspondance de Christophe Nziza.
Des journaux en ligne avaient rapporté que les autorités burundaises avaient d'abord exigé à la famille de signer un document pour reconnaître que Jacques Biosagara était mort de cause naturelle, des allégations qui n'ont été ni confirmées ni infirmées. Finalement, le corps de Jacques Biosagara aura été rapatrié sans qu'une autopsie soit réalisée. Reste à savoir si elle sera au Rwanda. Autant la famille de cet ancien ministre rwandais n'avait pas confiance dans les services burundais, autant on peut douter si Bujumbura ferait confiance à Kigali à un moment où les relations relations entre les deux capitales sont plus que tendues. Le gouvernement du Burundi se dit prêt à déposer une plainte à la Cour internationale de justice contre le président rwandais pour son soutien présumé à une nouvelle rébellion burundaise, qui égale dément et accuse Bujumbura non seulement de chercher un bouc émissaire pour ses propres problèmes internes, mais aussi de recruter des mercenaires dans les rangs des rebelles rwandais basés en RDC, l'FDLR, accusé de génocide rwandais d'il y a 22 ans. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Revirement en Libye, le chef du gouvernement non reconnu, basé à Tripoli, Khalifa Wayne, a affirmé aujourd'hui qu'il refusait de partir. Cette nouvelle intervient alors même que le gouvernement d'union nationale en Libye cherchait aujourd'hui à imposer son autorité sur les finances et les institutions. John Lindon.
Dans un communiqué qu'il a lui-même signé et publié sur le site de son gouvernement, M. Goël a appelé ses ministres à ne pas quitter leur poste, menaçant de poursuite quiconque travaillerait avec le conseil présidentiel du gouvernement d'union soutenu par l'ONU et dirigé par Fayez al-Sarraj. Un revirement au lendemain d'une annonce faite par son gouvernement qu'il cédait le pouvoir au cabinet d'union installé dans la capitale libyenne depuis une semaine. L'émissaire de l'ONU pour la Libye, Martin Kobler, avait pourtant salué le ralliement de M. Gouel comme une bonne nouvelle, tout en soulignant que les actes devront suivre les paroles de son soutien. À Tripoli, un optimisme fragile pointe néanmoins son nez chez des habitants, lassés du chaos, et plusieurs pays envisagent d'y rouvrir des ambassades. Le gouvernement d'union a ordonné à toutes les institutions et tous les ministères d'utiliser son logo. Il leur a surtout intimé l'ordre d'obtenir son feu vert pour effectuer toute dépense.
Grève en Guinée-Bissau, les agents et techniciens de santé ont été rejoints, ils ont rejoint le mouvement initié en début de semaine par les enseignants du primaire et du secondaire pour des revendications salariales. Seul un service minimum était observé aux urgences des hôpitaux de la capitale. La grève doit durer 10 jours.
Pénurie alimentaire au Soudan du Sud. L'ONU s'inquiète d'une nouvelle chute de la production agricole. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et le Programme alimentaire mondial disent que la production céréalière est en baisse de 400 tonnes cette année, soit une baisse de 53% par rapport à l'année dernière. Situation liée à la guerre et aux conditions météorologiques défavorables.
La baisse est même de 400 000 tonnes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, les Panama Papers font tomber le premier ministre islandais qui est le premier dirigeant à faire les frais de ce scandale. L'onde de choc a atteint le continent africain sans jamais prouver une quelconque action illégale des personnes citées. Idriss Fall.
Le premier ministre islandais David Sigmundur Gunnlaugsson s'est mis en retrait hier. Il avait pris le contrôle d'une société dans les îles Vierges britanniques et ne l'avait pas signalé dans sa déclaration de patrimoine. 140 personnalités ont fait des affaires avec le cabinet panaméen Mossack Fonseca pour bénéficier des avantages fiscaux. Sur le continent, il n'y a aucun président en exercice qui est cité. Mais Clive Hulubuse-Zuma, neveu du président sud-africain Jacob Zuma, John Adokouofor, fils aîné de l'ancien président ghanéen, le Sénégalais Pape Mamadou Pouy, arrêté avec Karim Wad Mamadi Touré, la quatrième épouse de l'Ansana Conté, ancien président guinéen, et Jainet Désiré Kabila Kiyungu, sœur jumelle du président Joseph Kabila. Et la liste est longue, mais ne prouve nullement que toutes ces personnes citées ont mené une action illégale.
Et 18 civils, dont une femme enceinte et 3 enfants, ont été tués dans un bombardement rebelle dans un quartier kurde de la ville d'Alep, dans le nord de la Syrie. C'est ce que rapporte l'AFP, citant l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Cette attaque survenue mardi a également blessé 70 personnes, dont 30 enfants, a précisé l'OSDH, ajoutant qu'elle violait l'accord de cessation des hostilités entrant en vigueur le 27 février.
Les attentats de Bruxelles sont indiscutablement un échec pour la Belgique, a reconnu aujourd'hui le Premier ministre belge Charles Michel, refusant toutefois que son pays soit qualifié d'État défaillant. « Je ne peux pas accepter l'idée qu'il y aurait un État défaillant en Belgique », a-t-il souligné, alors que le pays a été la cible d'accusations de laxisme depuis les attentats de Paris en novembre. Les attentats revendiqués par Daesh ont fait 36 morts et plus de 300 blessés à Bruxelles.
L'Afrique est l'une des régions où les cas de diabète explosent. C'est l'une des conclusions du premier rapport mondial sur le diabète de l'Organisation mondiale de la santé, un document que l'OMS a publié aujourd'hui, à la veille de la Journée mondiale de la santé. Jacques Aristide.
422 millions d'adultes vivent avec le diabète, notamment dans les pays en développement, un nombre qui a pratiquement quadruplé depuis 1980, faisant de cette maladie l'un des principaux tueurs dans le monde, a indiqué le docteur Étienne Grug de l'OMS dans un entretien à VOA Afrique. Longtemps considéré comme une maladie des pays riches, le diabète n'épargne plus désormais le continent africain, où l'OMS a noté un doublement du nombre des cas ces 35 dernières années. Et vu l'ampleur du phénomène sur la planète, l'OMS appelle à une action mondiale pour lutter contre le diabète en intensifiant la prévention et le traitement de la maladie. Il s'agit notamment de réduire les facteurs de risque tels que la sédentarité et la mauvaise alimentation, mais aussi de permettre aux diabétiques de recevoir les soins dont elles ont besoin pour prendre en charge leur maladie.
En France, le président François Hollande revient sur sa décision de supprimer 10 000 postes dans les forces armées. Il va en créer 800 supplémentaires au cours des trois prochaines années pour faire face à la menace terroriste, a annoncé l'Élysée.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Le Sénégal et la Corée du Sud ont signé deux accords d'un montant de plus de 51 milliards de francs CFA pour financer la seconde phase du projet de construction d'infrastructures et d'équipements maritimes. Cette phase comprend l'acquisition d'une drague d'une capacité de 400 mètres cubes et de navires de soutien, la construction d'une unité de stockage d'hydrocarbures avec embarcadère et un système de chargement-déchargement à Fundiung. L'Angola a demandé l'assistance financière du FMI pour faire face à la chute des cours mondiaux du pétrole. Selon un responsable de l'institution, le plan d'aide qui sera conditionné à des mesures d'économie pourrait s'étaler sur 3 ans. Les discussions commenceront la semaine prochaine lors de l'assemblée de printemps du FMI. Et le gouvernement du Mozambique a annoncé la conclusion d'un accord de restructuration de la dette liée à l'achat controversé d'une flotte de chalutiers et d'embarcations militaires au chantier naval français de Cherbourg, rapporte l'AFP. Contracté en 2013, l'emprunt de 850 millions de dollars avait servi à financer l'acquisition d'une flotte de 24 bateaux de pêche au thon, aux constructions mécaniques de Normandie. Mais la présence de 6 embarcations militaires dans le contrat avait fait crier les médias au scandale.
La Minute Éco, merci Nathalie.
On accueille Nicolas Pino pour les sports. Pas Pino, mais Pino, salut.
Bonsoir, chérubin.
Je croyais que tu allais dire chérubin. Le Togo a un nouveau sélectionneur.
Ou le Tolo a un nouveau sélectionneur. Il s'agit de Claude Leroy. Hein. Il a été nommé à la tête des éperviers. Après le Cameroun, le Sénégal, la RDC, le Ghana et le Congo, il s'agit de la 6e sélection africaine prise en main par le sorcier blanc de 68 ans. Le Togo est 3e de son groupe de qualification. À la CAN 2017, il lui faut absolument 2 victoires pour espérer accrocher un billet pour le Gabon. J'ai joint ce soir à Paris Claude Leroy pour une première réaction.
On est surtout en train d'essayer de bâtir quelque chose de solide pour 2019. 2017, ça serait un plus formidable, bien évidemment. Mais bon, pour ça, il faut aller gagner au Liberia, battre Djibouti et faire partie des 2 meilleurs seconds. Ce qui me semble tout à fait jouable à 13 points. Quoi. Donc, il me semble qu'avec 2 victoires et 13 points, il y aurait une qualification derrière. Mais bon, c'est très compliqué d'aller gagner au Liberia.
Claude Leroy, nouveau sélectionneur du Togo.
En Ligue des Champions, Nicolas, le choc ce soir?
Le Paris Saint-Germain accueille Manchester City en quart de finale aller de la C1. Manchester City disputera le premier quart de finale de la Ligue des Champions de son histoire. On va suivre également le Real de Madrid en déplacement chez Wolfsburg. Hier, le FC Barcelone à 11 contre 10 durant une heure a battu l'Atlético Madrid 2-1 grâce à un doublé de Luis Suarez. Mais la marge sera infime à Vicente Calderon dans une semaine pour le match retour. Le suspense reste entier. Et puis grand favori de son quart de finale face à Benfica, le Bayern de Munich n'a marqué qu'une fois à domicile hier soir, 1-0, ce qui laisse de l'espoir aux Lisboètes en vue du match retour.
La NBA, championnat de basket nord-américain.
Golden State s'est incliné à domicile face à Minnesota, 124-117 après prolongation. San Antonio qui s'est imposé de justesse sur le parquet de Utah, 88-86.
Autre nouvelle sportive?
Eh oui, la dernière minute, la police suisse a perquisitionné ce mercredi le siège de l'UEFA à Nyon pour obtenir les contrats d'attribution des droits télévisés, et ce dans le cadre du scandale Panama Papers qui implique le nouveau président de la FIFA, Gianni Infantino.
Merci Nicolas Pino.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonsoir, si vous nous rejoignez maintenant, Morgane Guerriec et Chiroumé Dorcy dans votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, la République du Congo.
Guy Brice Parfait-Kolela conteste le verdict de la Cour constitutionnelle validant l'élection au premier tour de Denis Sassou Nguesso le 20 mars dernier. Le candidat de l'opposition déclare cependant respecter le verdict de la Haute Cour et exige une enquête indépendante sur les troubles qui ont éclaté il y a deux jours à Brazzaville. Joint par Eddy Sango, le candidat arrivé en deuxième position à la présidentielle s'explique. Guy Brice Parfait-Kolela.
Le recours a été rejeté pour des motifs farfelus et j'ai démontré que c'était faux. Les allégations de la Cour étaient fausses. Donc, je veux regarder avec mes avocats conseils si auprès de la Cour africaine de justice, nous pouvons intenter un procès. À cet effet, parce que les articles 25, 26 et 71 de la Constitution ont été violés librement. Le vote s'est passé à huis clos pendant qu'il n'y a qu'un seul candidat qui était en contact avec ses équipes de campagne sur le terrain, et cela pendant 4 jours. Nous nous retrouvons dans la situation où nous jouons un match de football, les lumières sont éteintes dans un stade de football, et quand on les rallume, il y a un but au fond du filet. Va-t-on valider ce but ?
Votre déclaration est faite alors que le pays est sous tension avec les troubles qui ont éclaté il y a 2 jours, et les pouvoirs vous accusent, vous, de l'opposition. Qu'en dites-vous ?
Le pouvoir est dans le tort. Parce que le ministre de la Communication qui a fait cette annonce en accusant les ex-combattants ninja des années 93-97 d'avoir commis ces faits, je ne comprends pas. Ce même pouvoir dit que les enquêtes sont en cours. Mais pendant qu'on mène des enquêtes, on accuse une partie de la population. Et puis, monsieur le journaliste, comme explique, ces mêmes ex-combattants sont venus dans Brazzaville, auraient livré bataille avec les forces publiques aux abords des commissariats de police. Nous avons entendu des détonations des armes lourdes et légères, mais pas d'impact des balles dans les murs, pas d'impact des balles dans les commissariats qui ont été attaqués. Alors, les assaillants tiraient où? Les assaillants tiraient sur qui? Mais cependant, on nous a montré les commissariats brûlés. Ma peur, c'est que le Congo replonge dans les années 80 et 90 du monopartisme totalitaire, du marxisme, où on inventait les faux coups d'État et les fausses preuves. Mais les populations témoignent par-ci, par-là, qui les ont entendus parler une langue qui n'est pas parlée dans le département du Pôle. Ils parlaient lingala et consorts. Alors, qui sont ces assaillants? La lumière doit être faite.
Et quelle est la situation aujourd'hui dans le pays et à Brazzaville?
À Brazzaville, c'est un peu calme, mais à l'intérieur du département du Pôle, ce sont des hélicoptères de combat qui survolent, qui pilonnent.
Et Guy Brice Parfait-Kolela, candidat de l'opposition, arrivé en deuxième position à la présidentielle.
Dans Washington Forum, cette semaine, vive tension et violence post-électorale meurtrière au Congo. L'opposition dénonce ce nouveau mandat de Sassou Nguesso. Quel dialogue entre le pouvoir et l'opposition? Et le Tchad, dans la dernière ligne droite avant le scrutin présidentiel du 10 avril. 14 candidats sont en lice, dont Idriss Déby qui brigue un 5e mandat consécutif. Un bras de fer oppose le président sortant à la société civile. Comment garantir des élections apaisées? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Retrouvez Tatiana Mosso dans Washington Forum, c'est ce jeudi à 19h temps universel.
Nous partons maintenant au Bénin. Patrice Talon a prêté serment ce mercredi. La cérémonie d'investiture s'est tenue dans un stade de Porto Novo, la capitale. Le nouveau président a présenté les grandes lignes de son programme. Après l'euphorie suscitée par la cérémonie marquant son entrée en fonction, les Béninois dressent une liste d'attentes. De Cotonou, la correspondance de Ginette Fleur attendait.
Je déclare, du haut de cette tribune, que non seulement je m'y suis préparé, mais j'affirme que je suis déjà prêt. Maintenant.
La tâche qui attend Patrice Talon est énorme et lui-même mesure la portée du chantier des réformes institutionnelles, administratives, de la lutte contre la corruption qu'il attend. Et même s'il est venu au pouvoir dans la clameur et la bénédiction d'un peuple acquis à sa cause, il doit persévérer pour satisfaire les uns et les autres. D'ailleurs, certains l'attendent déjà sur le terrain des réformes. Pour certains acteurs de la vie sociopolitique, Patrice Talon n'a pas droit à l'erreur. Ils disent tout de même compter sur lui quant à la tenue des promesses faites pendant les campagnes électorales.
C'est une personne effectivement qui a opéré longtemps dans les affaires. Donc il connaît mieux que quiconque les préoccupations qui sont les nôtres. Une justice efficiente, un secteur privé dynamique, un système bancaire accessible à tous.
Et nous devons l'aider, nous devons le soutenir, lui donner si c'est possible quelques conseils pour qu'il soit dans la ligne. Parce que nous avons vécu 10 ans de calvaire. Nous voulons en finir avec ça.
On espère que, parce qu'une chose, c'est de faire un beau discours. Une autre chose, c'est de voir cela se traduire dans la réalité. Et nous attendons qu'il réussisse à concrétiser, n'est-ce pas, tout ce qui est dit. Parce que quand on a écouté ce discours, on peut dire que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il est venu pour faire à la tête de l'État.
Les syndicalistes, même s'ils approuvent l'élection de Patrice Talon, ne comptent pas lui faire de cadeau s'il arrivait à faillir à sa mission. On écoute quelques-uns.
Nous exigeons la fin de l'impunité et de la corruption dans notre pays. Eh oui, on parle de fin de l'impunité. Et puis, on peut nous dire, ah, si on fait ça, est-ce qu'il n'y aura pas chasse aux sorcières? La CSTB dit, pour rompre avec ce que Yahi avait fait jusque-là, eh bien, il faut faire les audits. Eh bien, il faut interroger les différentes affaires.
Nouveau départ, ce n'est pas le président Talon seul, hein, non. Nous lui avons délégué une partie de notre souveraineté. Le peuple lui a délégué une partie de sa souveraineté. Et c'est au peuple de dire, voilà ce que nous voulons. Le peuple s'est exprimé et les vox populi que les journalistes ont fait sont très très édifiants dans ce domaine.
100 jours, c'est le délai donné pour constater la véracité des promesses électorales faites par Patrice Talon il y a quelques semaines. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VO Afrique.
Au Tchad, depuis des semaines, l'opposition et les militants de la société civile réclament une démocratisation de la vie politique accaparée, selon eux, depuis 26 ans, par le chef de l'État, Idriss Déby Itno. Ce dernier se présente dimanche prochain à la présidentielle pour un 5e mandat de 5 ans et plus ponctuellement. La société civile exige aussi la libération de 5 de ses leaders emprisonnés pour avoir justement voulu organiser des marches pacifiques. De N'Djamena, une correspondance d'André Konmadjingar.
6 millions d'électeurs environ vont départager le 10 avril prochain 14 candidats qui se disputent le Palais Rose. Le président sortant Idriss Déby Itno fait face à 13 candidats qui se réclament tous de l'opposition démocratique. Au total, plus de 18 000 bureaux de vote sont retenus à travers le pays. Les hommes en treillis, quant à eux, votent un jour avant les civils pour leur permettre d'assurer la sécurité des citoyens le jour du vote.
Nous sommes tout à fait à l'aise pour dire que les mesures ont été prises pour que le 10 avril prochain, tout se passe bien. Parle sous le contrôle de mon collègue de la sécurité publique, il n'est pas au courant de donner des chiffres concernant les effectifs à mobiliser. Mais je puis vous certifier que ces effectifs-là seront un nombre suffisant pour pouvoir remplir convenablement leur mission.
Lui, c'est le ministre de l'administration du territoire, Mahamat Ali Hassan. Il met en garde tous ceux qui tenteraient de troubler l'ordre public le jour du vote.
Nous avons en particulier le souci majeur de créer les conditions d'un respect absolu de l'ordre public. Et donc, nous ne tolérerons pas qu'il y ait des déviances comportementales qui puissent porter atteinte à la sécurité publique, à l'expression des libertés de nos concitoyens. Nos gouverneurs ont été instruits à cet effet, de même d'ailleurs que les autres démembrements de l'administration, que sont les départements, les sous-préfectures, etc.
Cette consultation électorale va se dérouler dans une situation sécuritaire peu ordinaire due à la menace de Boko Haram. Le ministre de l'administration du territoire en est conscient.
La menace terroriste, elle existait avant même que cette échéance-là ne soit déclarée. De toute façon, nous avons obligation de veiller à la préservation de la sécurité de nos concitoyens. Et donc, ce sont des choses que nous appréhendons concomitamment. À partir de l'instant où les terroristes, ils ambitionnent de faire le plus de dégâts humains et matériels possibles, notre responsabilité à nous est de veiller à ce qu'il y ait le moins de prises possibles à ce type de situation.
Mahamat Ali Hassan demande à ses collaborateurs, notamment les autorités administratives, civiles et militaires, d'être neutres car la crédibilité de cette élection en dépend.
Nous rappelons, chaque démembrement de l'administration a ses devoirs. C'est un devoir donc de neutralité, c'est un devoir qui consiste à veiller à ce que le scrutin se passe dans les bonnes conditions. C'est vrai, il a pu peut-être se faire par le passé que des déviances ou des situations ont pu être observées. Si le cas se reproduisait, bien entendu, des mesures appropriées seront prises pour réprimer ce type de comportement.
Selon les sources proches de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, les matériels électoraux sont en train d'être déployés pour la tenue effective de cette élection. André Kodumadjingar N'Djamena, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Uber, la compagnie de taxi avec réservation en ligne basée aux États-Unis, a pris pied en Afrique. En Côte d'Ivoire, quelques entrepreneurs tentent de saisir l'opportunité, notamment à Abidjan, où ils proposent depuis l'année dernière un service similaire. De la capitale économique ivoirienne, reportage d'Emily Yob, présenté par Michel Joseph.
Dans le centre d'Abidjan, les distinctifs taxis orange circulent comme à l'accoutumée. Mais c'est dans une voiture banalisée que prend place le producteur de télévision Jean-Louis Aïbo. Avant de sortir de sa maison, il avait reçu sur son téléphone portable un message de la compagnie TaxiJet lui donnant tous les détails sur le véhicule et le conducteur.
Dans le cadre de mes activités, j'ai beaucoup de choses. Ce n'est pas évident que je retrouve cela si jamais j'arrivais à les égarer dans un taxi. Et j'insiste pour que je sois à l'heure au rendez-vous.
Au siège de TaxiJet, toutes les voitures sont suivies en temps réel. Le service, qui a été lancé en juin dernier, reçoit maintenant une centaine de réservations par jour. La plupart des 500 chauffeurs de TaxiJet utilisent leur taxi orange traditionnel, mais la société a commencé à déployer sa propre flotte de véhicules pour répondre à la demande. Inspiré par Uber, le cofondateur de TaxiJet, Parfait Ouattara, croit que certains Ivoiriens sont prêts à payer un peu plus pour un meilleur service.
TaxiJet est né d'une idée de joindre le confort et la sécurité pour le déplacement de tous les Ivoiriens.
Au cours de la dernière année et demie, trois autres sociétés de transport ont fait des paris similaires à Abidjan, proposant différents tarifs et niveaux de luxe. Utiliser leurs services coûte 50% plus cher que les taxis traditionnels. Le Congolais Vansi Goma a lancé son service Africab en début d'année.
Disponible à bord de nos véhicules, nous avons nos tablettes numériques qui vous permet de consulter vos mails si vous en avez besoin.
Goma envisage d'étendre son activité à travers l'Afrique, notamment dans son pays d'origine, d'autant plus que ça marche à Abidjan. Il a déjà doublé le nombre de voitures de sa flotte et noué un partenariat avec un hôtel local. Que signifie cette concurrence pour les milliers de taxis orange de la ville? Ils ne sont pas inquiets, mais essaient d'améliorer leur service, explique Drissa Diaby du syndicat des taxis. Le syndicat a demandé une réunion avec le ministère des Transports pour discuter des nouveaux services, a-t-il indiqué.
On roule 24 heures sur 24 heures pour pouvoir aider la population. Ce mode de transport, ce n'est pas venu pour aider les Ivoiriens, c'est pour venir pour aider les riches.
Pour ce qui est de la conduite imprudente, notoire des chauffeurs de taxi, Drissa Diaby dit que cela ne va probablement pas changer. Cela fait partie de la circulation dans les rues bondées de la ville, estime-t-il.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001 202 619 3140. Vos SMS et WhatsApp au 001 703 350 37 31. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Georges Léonard Sagnot a assuré la mise en onde, à la présentation Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
On remercie Joe Gill à la console. Ainsi va Le Monde Aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Faites-nous part de ce qui domine l'actualité chez vous. Suggérez des sujets de reportage pour nos magazines. Partagez aussi vos photos et vidéos. Et n'oubliez pas, on est ensemble 24 sur 24 sur voaafrique.com.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wenpanga. Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.